et regagne 0,10% à 125 yens 82. En ce qui concerne les marchés de l'or à Paris, le lingot a perdu 110 euros à 10 630. Le Napoléon, lui, a reculé de 50 centimes à 61 euros, alors qu'à Londres, l'once de métal fin a repris 3,15 à 381,90. Je vous rappelle que le CAC 40, lui, est en forte hausse de 0,96% maintenant à 3 425 points. C'est Antoine Berlin, la Bourse de Paris pour France Inter.
La Bourse en temps réel, tous les cours, les indices et les marchés, sur votre Minitel 3615 France Inter, rubrique Bourse, 35 centimes d'euros la minute. Ou sur votre téléphone au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute.
Vous écoutez France Inter, il est 14h03, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire et c'est avec Patrice Gélinet bien sûr, bonjour.
Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui le destin exceptionnel d'un fils d'aubergiste devenu maréchal d'Empire et roi de Naples, Murat.
Combattent pour leur propre gloire sont de bons et fidèles soldats. Machiavel.
Mille ans d'histoire. En brisant les barrières sociales qui empêchaient un roturier de devenir officier, la Révolution française a rendu possible d'extraordinaires carrières militaires. Parmi elles, celle de Murat est exemplaire. Fils d'un aubergiste du Lot, révolutionnaire de la première heure, simple soldat puis officier, présent sur tous les champs de bataille de la République, du Directoire et du Consulat, celui qu'on surnommait le brave des braves, a gagné ses étoiles de général à 29 ans, avant de devenir maréchal d'Empire, grand-duc de Berg, puis roi de Naples en 1808. Un parcours extraordinaire qui commence par une rencontre entre deux destins. Deux hommes dont l'avenir s'est joué un soir d'octobre 1795. Ce jour-là, le 13 Vendémiaire en 4 à Paris, la République avait bien failli être renversée par un soulèvement royaliste.
Crois-moi, Barras, pour l'instant, ce n'est qu'une simple émeute.
Une simple émeute ? 25 000 royalistes enragés qui marchent sur la Convention avec l'intention de s'emparer des députés et d'assassiner la République, tu appelles ça une simple émeute ?
Quelles sont vos forces ?
Appelle-moi ton nom, citoyen.
Général Bonaparte, actuellement sans commandement.
Ah oui, Bonaparte. Arthur, c'est ça ? Eh bien, nos forces, ce sont 4 000 hommes au camp des Sablons. 4 000 contre 25 000.
Pas de canon ?
Non. Mais nous les a laissés au Sablon sous prétexte qu'ils ralentissaient sa marche.
Il nous faut ces artilleries. Demandez au chef d'escadron Murat d'aller nous chercher ses canons, je le connais. T'es pas un homme, c'est un torrent, rien ne peut l'arrêter.
Quel jour sommes-nous ?
Il est minuit. Nous sommes donc le 13 Vendémiaire.
À toi de jouer, Murat, prends ta position.
Soldats, suivez-moi, en avant !
Jacques de Mougin, bonjour.
Bonjour.
Alors c'était le 5 octobre 1795, l'écrasement d'une révolte royaliste par deux inconnus hein, qui allaient devenir célèbres, Bonaparte et Murat. Murat qui fut sans doute le plus célèbre des 26 personnages que l'on retrouve dans votre livre, Jacques de Mougin, les maréchaux de Napoléon. Alors ce qui est extraordinaire dans le destin de Murat par rapport aux autres, c'est que ce maréchal, futur roi de Naples, vient d'une famille très modeste. C'est vraiment une carrière qui aurait été impensable avant la Révolution française.
Totalement impensable avant ce grand concours, comme le définissait Napoléon, justement, qui a été la Révolution française. Parce que, alors que Bonaparte est un noble, petit obreau corse, mais il est noble quand même, et il a pu, à ce titre, entrer dans les écoles militaires de l'Ancien Régime, Murat, lui, est un roturier. Et il n'avait absolument aucune chance dans l'armée de devenir un jour officier à la suite de la révolte révolte nobiliaire, pourrait-on dire, de 1781, qui a exigé 4 quartiers de noblesse pour être officier dans la cavalerie et dans l'artillerie. Mais Murat avait un parcours, avant le 13 Vendémiaire, un parcours absolument extraordinaire, dans la mesure où il avait à la fois donné des gages à la Révolution, et il en avait donné de tellement bons qu'il avait demandé à s'appeler Marat, changer une lettre de son nom, et il avait également donné des gages aux Thermidoriens en dégageant la convention après l'émeute qui avait coûté la vie au député Ferro.
Mais avant ça, il faut vous le rappeler d'ailleurs, il était prévu qu'il soit prêtre, alors il a fait le grand séminaire, il a fait des études de droit canon à Toulouse, il s'est fait virer parce qu'il était insupportable, ensuite il est entré dans l'armée comme soldat, il s'est fait également virer parce qu'il était indiscipliné, il est revenu dans son pays à s'insérer comme commis épicier, et puis donc justement la révolution fait de lui un révolutionnaire ardent, d'ailleurs tellement que quand il arrive à Paris, il est tellement robespierriste qu'il était inquiété au moment de la chute de Robespierre, et c'est là qu'il se trouve en disponibilité lorsqu'il croise Bonaparte, qui lui aussi est en disponibilité.
Et pour les mêmes raisons, Bonaparte ayant été l'ami du frère de Robespierre, Augustin de Robespierre, représentant en mission à Toulon.
Oui.
Il croise Bonaparte, leurs destins vont se conjuguer, mais jamais ils n'auront entre eux une intimité, malgré les liens de parenté, malgré les commandements que Murat pourra exercer pour Napoléon, ils n'auront jamais cette intimité que Napoléon aura avec d'autres maréchaux comme Bessières ou comme Lannes.
Alors cela dit, après avoir écrasé les royalistes avec Bonaparte, Murat va le suivre dans les campagnes d'Italie, il va le suivre en Égypte, il a participé à la bataille des pyramides aussi, c'est quand même assez étonnant comme vie. Et puis alors il est un des rares à revenir en France avec Bonaparte et participer avec lui au coup d'état des 18 et 19 Brumaire, coup d'état qui a failli rater d'ailleurs quand Bonaparte s'est fait chasser du Parlement du Directoire, le Conseil des 500, où il a même failli se faire tuer. C'était le 19 Brumaire, le 10 novembre 1799, à Saint-Cloud.
Ils ont essayé de me poignarder.
Mais non, ils vont essayer de t'intimider.
Non, ils ont vraiment cherché à me tuer.
Nous avons échoué. Nous sommes perdus.
Il faut partir d'ici.
Vous n'avez rien à craindre. Murat est là, dehors, avec toutes ses troupes.
Murat, mon Dieu, Murat. J'ai presque oublié, Murat.
Soldats! Par le droit que m'en donne le décret promulgué hier, le 18 Brumaire. Je vous déclare que les représentants de la nation sont en danger. En conséquence, je vous entends.
On connaît notre devoir. En avant !
Alors c'était un autre extrait du téléfilm Napoléon, dit Simoneau, Murat chassant les députés des 500, hein, en disant même « foutez-moi ces gens-là dehors ». Vous dites même, Jacques de Mougins, qu'il aurait dit « citoyens, vous êtes dissous ».
Oui, tout à fait, et en poussant avec ses grenadiers les députés par les fenêtres.
Alors il a joué un rôle essentiel, ça a failli rater ce coup d'État, et là tout le destin, même l'histoire de France changeait si Bonaparte n'avait pas réussi son coup d'État.
Tout à fait, le coup d'État était prévu en deux jours. Le premier jour a parfaitement réussi. Et tel qu'il était conçu avec Sieyès, Bonaparte devait simplement se charger d'assurer la sécurité et l'ordre à Paris et de faire promener des troupes autour de la capitale. Et puis, le premier jour, la réussite a été telle qu'on n'a pas pensé du tout à organiser la journée dans laquelle le Bonaparte et les futurs consuls seraient en face des députés. Et c'est parce que la chose s'est mal passée que la troupe est intervenue, mais à ce moment-là, ça a eu une conséquence formidable pour Bonaparte. L'armée ayant joué le rôle principal, la nouvelle constitution telle que la concevait Sieyès n'a pas pu être instaurée, et c'est la dictature militaire qui s'est imposée.
Et l'armée, c'est Murat, hein, donc c'est ça.
L'armée, c'était Murat et Lefebvre, les grenadiers de
Lefebvre. Alors, ça va rapprocher encore plus Bonaparte de Murat, au point d'ailleurs Murat va devenir le beau-frère de Bonaparte. Il épouse sa sœur Caroline.
Oui, très rapidement, en janvier 1800, il épouse Caroline. C'était pas du tout un mariage qui enthousiasmait Bonaparte. Il aurait préféré le maréchal Lannes, le futur maréchal Lannes. Mais Caroline avait été enthousiasmée rencontrant 3 ans plus tôt, alors qu'elle n'avait que 15 ans, Murat à Milan. Et Murat également, ça avait été pour lui un moment d'amour fou. Et il s'est imposé à la famille Bonaparte.
Ils vont même s'installer le couple à l'Élysée. Je ne sais pas quel Élysée avait été occupé par Murat.
Oui, ils vont occuper de très très beaux châteaux, l'hôtel Télusson dans le centre de Paris, le château de Neuilly et de Villiers dans lequel ils font des travaux somptuaires, et puis l'Élysée effectivement dans lequel ils donneront des fêtes superbes.
Alors justement, il fait quand même un peu le sale boulot. Jacques de Mougins, par exemple, Murat a joué un rôle dans l'exécution du duc d'Enghien en 1804, hein, c'est-à-dire de ce cousin des rois de France qui a été tué dans le fossé de Vincennes.
Oui, mais Murat a joué ce rôle parce que le 15 janvier 1804, il avait été nommé gouverneur militaire de Paris. Et en cette qualité, il devait assurer l'ordre dans la capitale, et en même temps, il a dû désigner la commission militaire destinée à juger le duc d'Enghien. Mais il n'a fait que cela. Et quelqu'un aussi redoutable que Chateaubriand dans les jugements portés sur l'assassinat du duc d'Enghien a disculpé Murat de toute faute grave dans ce cas.
Alors Jacques de Mougin, cela dit, il va être couvert d'honneur. Alors dans cette liste des maréchaux que l'on retrouve d'ailleurs dans votre livre, il est même le deuxième des maréchaux d'Empire après Berthier.
Tout à fait, et ça s'explique à la fois pour des raisons de parenté, mais également par son prestige extraordinaire sur l'armée. La bravoure dont il faisait preuve, l'entraîneur d'hommes qu'il était, faisait que c'était quelqu'un qui était désigné immédiatement à cette dignité.
Même nommé grand amiral. Alors ça, je ne savais pas qu'il était marin, Murat.
Pas du tout, d'ailleurs. La marine sous l'Empire n'a pas eu de grandes heures. C'était surtout une manière d'assurer à Murat des émoluments importants.
C'est d'ailleurs un Murat qui va tenir la couronne de Joséphine pendant le sacre de Napoléon le 2 décembre 1804. Et puis un an plus tard, il va encore jouer un rôle capital dans la plus grande bataille, la plus grande victoire en tout cas de Napoléon, au Austerlitz, le 2 décembre 1805.
Nous engageons une bataille dont dépend l'avenir. Je confie le commandement de l'aile gauche au maréchal Lannes, de l'aile droite au maréchal Soult, du centre au maréchal Bernadotte, et la cavalerie tout entière à monsieur le prince Murat. La cavalerie de Murat aura devant elle les hussards de Kellermann. Le soleil est des nôtres. Engagez la bataille et revenez vainqueur. Je vous salue, messieurs.
Vive la guerre !
Messieurs, l'empereur nous regarde. Nous allons avoir l'honneur de lui montrer ce que nous savons faire. Savons-faire !
C'était Murat chargeant à Austerlitz à la tête de sa cavalerie. Un extraordinaire soldat aussi, et d'un courage. Enfin, il est maréchal, il a tout ce qu'il lui faut, et hop, il est à la tête de ses soldats. Il a pris des risques énormes dans toutes les batailles de l'Empire, Jacques de Mougins.
Oui, on peut dire comme tous les maréchaux, mais lui encore plus que d'autres. Hein. Et d'ailleurs, on s'étonnait, ses contemporains s'étonnaient de voir que cet homme qui était très riche, qui avait tous les honneurs, risquait sa vie. D'une manière inconsidérée dans les charges, parce que il chargeait en tête de la cavalerie et souvent avec une simple cravache. Mais le dynamisme qu'il insufflait justement à ces hommes, d'abord à la cavalerie légère, puis à la formidable cavalerie lourde des cuirassiers et des carabiniers qui perçaient le front comme une colonne blindée en quelque sorte, faisait qu'il emportait la solution à chaque fois.
Il a joué un rôle important dans toutes les batailles, notamment celle d'Eylau. Ah, c'est là où c'est distingué, parce que ça a failli être un désastre.
Ça a failli être un désastre. Le corps d'armée de Soult était très aux prises avec les Russes et l'artillerie russe, et la cavalerie de Murat a percé de part en part l'armée russe et l'a prise à revers et a décidé du sort de la bataille.
Alors, cela dit, Jacques de Mougins, il a aussi participé à des batailles beaucoup moins glorieuses, hein, notamment en Espagne, si on peut appeler ça une bataille. C'est lui qui écrase la révolution espagnole du 2 mai 1808, le Dos de Mayos, hein, qui a été immortalisé par Goya. Et là, c'est une guerre civile, il écrase une population civile.
Il écrase une population civile, il écrase une rébellion. Hein. Il écrase une rébellion sauvage, oui. Bon, il faut dire que cette affaire d'Espagne avait bien commencé. Les Espagnols, pensant que l'armée française venait rétablir l'ordre en allié alors qu'il y avait une crise dynastique, le prince héritier Ferdinand VII ayant détrôné son père Charles IV. Et lorsqu'ils se sont aperçus qu'en réalité les Français venaient pour leur propre compte, il y a eu cette révolte terrible du 2 mai qui a été terriblement réprimée par Murat. Mais si Murat a été aussi dur, c'est qu'il pensait aussi travailler pour son compte. Il faut pas oublier que sa femme Caroline espérait toujours un trône. Elle s'estimait
la sœur de Napoléon, c'était normal. Oui.
C'était normal. Ses sœurs avaient été mieux loties qu'elle. Elle espérait toujours un trône. Et elle espérait également, à cette époque, il faut penser que l'empereur n'a pas d'héritier, qu'un jour elle récolterait avec son mari l'empire si Joséphine ne donnait pas d'enfant à l'empereur. Bon, donc il y avait dans cette affaire d'Espagne une double intrigue menée d'ailleurs avec Talleyrand et Fouché d'une part pour une succession éventuelle à l'empire et directement par Caroline et Murat pour ceindre la couronne d'Espagne.
Alors, il voulait effectivement la couronne d'Espagne. Cela dit, c'est à Joseph, finalement, que Napoléon a donné cette couronne. Mais comme Joseph était roi de Naples, alors, il y a eu une espèce de petit tour de passe-passe. Hein. On a dit à Joseph, Napoléon a dit, Joseph, eh bien, tu prends la couronne d'Espagne et je donne à Murat la couronne de Naples. Il y a cette formule extraordinaire qu'on trouve dans votre livre de Chateaubriand, justement. Alors, parlant de Napoléon, entre Joseph, son frère, et Joachim, son beau-frère, il lui plut d'opérer une transmutation. Il prit la couronne de Naples sur la tête du premier et la posa sur la tête du second. Il enfonça d'un coup de main ses coiffures sur le front des deux nouveaux rois et s'en allèrent chacun de son côté comme deux conscrits qui ont changé de shako. Ben, c'est marrant, ça montre bien de quelle manière, au fond, Napoléon considère les gens qu'il fait rois. C'est vraiment c'est des rois d'opérette, en fait.
Tout à fait. Enfin, c'est des rois satellites. Hein. Et Murat en avait tout à fait conscience. Dans une lettre qu'il écrit à l'empereur le 1er avril 1809, il lui dit notamment « Vous avez fait des ducs d'empire, des comtes d'empire, des barons d'empire, eh bien vous avez besoin de rois d'empire. Mmh. » Et il avait le sentiment très profond de la limitation de ses compétences et de son pouvoir.
Alors ce royaume de Naples, hein, c'était pas rien. Quand Murat devient roi de Naples sous le nom de Joachim ou Joachim, je crois qu'on dit les deux, Jacques de Mougins, et c'est la moitié de l'Italie.
Tout à fait.
C'est la moitié sud de l'Italie.
C'est un royaume important parce qu'il a une position stratégique capitale. Il faut pas oublier qu'à ce moment-là, les Anglais tiennent la Sicile. C'est pour la politique européenne de Napoléon quelque chose de très fâcheux. Donc le royaume de Naples est en première ligne en réalité. D'autre part, c'est un royaume suffisamment riche pour fournir en principe des contingents à l'armée napoléonienne.
Et le règne donc de Murat commence en 1808, un règne court, peu connu, mais que l'on retrouve dans un vieux film de 1947, Les beaux jours du roi Murat.
Sire, pour commémorer dignement le premier anniversaire de la prise de possession du royaume de Naples par votre majesté, nous aurons l'honneur insigne de chanter tout à l'heure une marche militaire célébrant vos glorieuses campagnes.
Sa majesté, le roi!
Vous écoutez France Inter du Milan d'Histoire, aujourd'hui Murat.
Et une chanson, Les soldats du roi Murat, tirée d'un vieux film, justement, qui s'appelle Les beaux jours du roi Murat. Alors, quand il est devenu, alors ça fait un peu chanson d'opérette, Jacques de Mougins, mais il s'est pris vraiment très au sérieux à la tête de son royaume, Murat.
Il s'est pris très au sérieux et il a engagé tout de suite un certain nombre de réformes. D'abord, évidemment, en tant que général, des réformes de l'armée, pour répondre d'ailleurs aux demandes pressantes de Napoléon, mais des réformes profondes. Il a aboli le servage, il a transformé profondément l'administration, et il a appelé dans son ministère des patriotes, c'est-à-dire ceux qui, à l'époque, envisageait déjà un jour l'unité italienne.
Oui, ça c'est extraordinaire. Il a été un des précurseurs de cette unité. L'Italie était très divisée à l'époque.
L'Italie était très divisée. Elle était surtout, depuis l'occupation napoléonienne, divisée en deux grandes entités. Le Nord, qui était confié au vice-roi Eugène de Beauharnais et qui était très étroitement gouverné par la France. Et puis le Sud, qui était dans la main de Murat. Et entre les deux, il y avait les états pontificaux que Napoléon fera occuper et que Murat espérait récupérer un jour, car il avait été fasciné depuis la première découverte qu'il en avait fait en 1798 par la ville de Rome. Et il s'était d'ailleurs toujours comporté avec beaucoup de déférence à l'égard du pape.
Alors cela dit, Jacques de Mougins, il n'oublie pas Napoléon, hein, de Naples où il se trouve comme roi. Il va le rejoindre pendant la campagne de Russie. On le trouve là encore dans toutes les grandes batailles, la Moscova. Il est le premier qui rentre à Moscou. Enfin, il sent vraiment que ça tourne mal. Il va retourner dans son royaume de Naples et il va même trahir Napoléon en 1814 en s'alliant avec l'Autriche contre Napoléon.
Oui, il avait pensé d'ailleurs ne pas aller jusque-là. D'abord, il avait pensé à la neutralité. À l'époque, l'Autriche était neutre aussi au début du 1814, elle n'avait encore pas basculé dans la dernière coalition, et il pensait pouvoir faire la même chose. Mais Caroline avait pour amant à l'époque le comte de Mire, qui était l'ambassadeur d'Autriche après avoir eu le chancelier Metternich. Et elle penchait tout à fait pour une alliance officielle avec les alliés pour essayer de sauvegarder le royaume. Bon. Murat donc a suivi ce parti. Il a mobilisé des troupes d'une manière très ambiguë. On ne savait pas s'il allait soutenir le prince Eugène ou l'attaquer. Finalement, il l'a attaqué. Et au soir de l'attaque, quand il a vu des soldats français sur le terrain, il a craqué. Il a interdit à ses troupes de poursuivre le prince Eugène. Et il a écrit une lettre délirante à Napoléon, lui disant « Ma vie est à vous, je regrette ce que j'ai fait, tout ça. » Et Napoléon a dit « Ce traître extraordinaire peut encore nous être utile, peut-être. » Et il lui a envoyé Fouché pour essayer de le maintenir dans la...
Alors il va donc rallier Napoléon en 1815. Cela dit, ça va évidemment lui porter malheur, puisqu'il va retomber avec lui, en même temps que lui, après la bataille de Waterloo, d'ailleurs qui est la seule grande bataille à laquelle Murat n'est pas participé. Et puis alors, il est renversé à Naples. Il va tenter de récupérer son trône par une expédition rocambolesque avec 200 bons hommes. Il atterrit dans une toute petite ville de Calabre, Pizzo. Et là, il est capturé, il est fusillé le 13 octobre 1815. Hein, et le roi de Naples, selon vous, enfin, selon Dumas, c'est Alexandre Dumas, aurait même coupé sa tête pour la garder dans un bocal. Hein, c'est assez étonnant. En tout cas, Dumas n'est pas le seul avec avoir fait de Murat un personnage légendaire. La revue de texte, Stéphanie Duncan.
Murat a une image ambiguë. Hein. D'un côté, il y a la légende dorée, magnifie le courage du soldat, et l'homme du peuple devenu roi. Et de l'autre, la légende noire, celle d'un ambitieux et d'un traître. Alors, la légende dorée, d'abord, bien sûr. Murat, l'acteur des plus grandes victoires de Napoléon. Voici le rapport de son armée au soir d'Austerlitz. 7000 prisonniers, 2 drapeaux pris, 27 pièces d'artillerie, 1500 morts, plus de 3000 blessés. Voilà le résultat de cette belle et brillante journée pour l'armée aux ordres de son Altesse, le prince Murat. Jamais bataille ne se donna avec plus d'élan. Jamais on ne marcha mieux et avec plus d'ordre. Pendant toute la bataille, le prince Murat s'est trouvé au premier rang, donnant partout ses ordres et courant les plus grands dangers. Murat est populaire, hein, auprès de ses soldats, mais aussi auprès des hommes et des femmes, des pays vaincus, où il apparaît comme un libérateur. Le 24 mars 1806, par exemple, Murat entre triomphalement à Düsseldorf. « J'ai été reçu d'une manière admirable, écrit-il à l'empereur. J'essaierai en vain de vous peindre l'allégresse des habitants de Düsseldorf. Ils étaient dans l'ivresse. » Le poète allemand Heinrich Heine est ébloui lui aussi. Les drapeaux s'inclinèrent, les tambours roulèrent et les vivas retentirent de toutes parts. À Clèves, on chante des hymnes à la gloire de Murat, héros jeune et vaillant, enfant de la victoire, des rayons de ta gloire, tu viens couvrir nos cités et nos champs. Alors, cette légende dorée sera reprise par les romantiques, nostalgiques de la grandeur napoléonienne, Balzac, Stendhal et bien sûr Victor Hugo. Dans un poème des châtiments, Hugo rappelle à Napoléon III, le petit, ce qu'il doit à Napoléon Ier et à ses compagnons. Te voilà, nain immonde, accroupi sur ce nom. C'est pour toi qu'on livra ces combats inouïs. C'est pour toi que Murat, aux Russes éblouis, terrible, apparaissait cravachant leur armée. Mais à l'envers de la médaille, la légende noire de Murat, on la doit à Napoléon lui-même. Sans moi, dit Napoléon, sans moi, Murat n'était rien. Avec moi, il était mon bras droit. Si on le laissait à lui-même, c'était un imbécile sans jugement. Et c'est pour cela que Napoléon n'a pas voulu emmener Murat à Waterloo. Je l'eusse amené à Waterloo, dit-il. Mais l'armée française était tellement patriotique, si morale, qu'il est douteux qu'elle eût voulu supporter le dégoût et l'horreur qu'avait inspiré celui qu'elle disait avoir trahi, perdu la France.
Un commentaire sur ces portraits étonnants de Murat, Jacques de Mougins. Est-ce que c'était un traître, un héros ou même un imbécile, comme le disait Napoléon?
Ce n'était ni un traître ni un imbécile. C'était un homme d'une extrême bravoure qui fascinait non seulement ses propres troupes, mais ses adversaires. Lorsque les Cosaques le poursuivaient pendant la campagne de Russie, ils avaient tellement d'admiration pour lui qu'ils essayaient de le prendre vivant. Hein. Oui. Et quand il y avait une interruption de combat, une sorte d'armistice, Murat se montrait d'une générosité incroyable avec ses adversaires, distribuant aux Cosaques des montres en or, des louis d'or, des choses comme ça. Il était un personnage absolument charismatique. Bon. En même temps, Napoléon a raison de dire que c'était un homme qui n'était que brave et qui manquait de jugement. C'est-à-dire, il n'avait pas le talent d'être un général en chef, d'abord ayant un très grand coup d'œil, ayant une stratégie cohérente, et en même temps, politiquement, il a été le jouet, au fond, de tous ceux qui l'ont conseillé, que ce soit Talleyrand, que ce soit Fouché, que ce soit sa femme, et il n'a jamais su prendre un parti très clair.
Mais c'est curieux parce que le roi de Naples qui lui a succédé, hein, Ferdinand, qui a repris son trône à Murat et dont Dumas dit qu'il avait même coupé la tête de Murat pour la mettre dans un bocal, c'est quand même assez étonnant, c'est très triste d'ailleurs, c'est pathétique la fin de Murat. Et en même temps, je crois qu'aujourd'hui il était enterré dans une fosse commune à Pizzo, hein, une toute petite ville au fin fond de la Calabre, au fin fond de l'Italie.
Oui, dans la fosse commune de l'Église.
Mais les Italiens, je crois, aujourd'hui vénèrent encore Murat. Je crois que c'est même à Garibaldi que l'on doit la fameuse formule « le brave des braves ».
Tout à fait, les Italiens le considèrent comme le premier héros du Risorgimento, du réveil national de l'Italie. Il ne faut pas oublier qu'avant de se joindre en 1815, au moment du retour de l'île d'Elbe à Napoléon, Murat avait lancé une grande proclamation à Rimini, dans laquelle il appelait tous les peuples d'Italie à se libérer, à s'unir, et c'est le début, au fond, de l'unité italienne.
Merci Jacques de Mougins. Je rappelle donc que l'on retrouve Murat dans un des chapitres de votre très beau livre, Les Maréchaux de Napoléon, un livre publié au Trésor du Patrimoine et aux éditions du Layeur. Puis je voudrais citer également une biographie entièrement consacrée à Murat, un excellent livre de référence, Murat de Jean Tullard, aux éditions Fayard. À lire également la biographie d'un autre maréchal, le maréchal Soult, de Frédéric Hulot, qui vient de sortir chez Pygmalion. Et enfin, Murat et Caroline, de Jean Prieur, publié aux éditions Fernand Lanor. Vous avez pu entendre des extraits du téléfilm Napoléon, d'Yves Simonneau, avec Christian Clavier dans le rôle de Napoléon, et Claude Amendola dans le rôle de Murat, un film disponible en vidéo et DVD aux éditions France 2, France 3, et distribution du film de Théophile, et le film de Théophile Pathé, Les Beaux Jours du Roi Murat, disponible en vidéo. Vous pouvez, vous le savez, retrouver tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Edwin Caron et Olivier Daligo, documentation Virginie Bloch-Lenné et Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.
Demain, dans 2000 ans d'histoire, un grand témoin exceptionnel, la première femme lauréate du concours général, la première professeure au Collège de France et la deuxième femme élue à l'Académie française, l'helléniste Jacqueline de Romilly. Mais tout de suite à 14h30.